Bonsoir, avant de commencer notre cours, une petite information. La semaine prochaine, donc les éditions Lessius seront à votre disposition à l'extérieur de cette salle pour vendre leurs ouvrages, notamment les ouvrages de ceux qui ont ou qui vont parler pendant ce cours. Et puis des ouvrages relatifs à la foi chrétienne. Donc voilà, une sélection d'ouvrages des éditions Lessius avec, je crois, une petite ristourne. Donc la Saint-Nicolas sera terminée, mais il y a encore Noël, donc il sera toujours temps. Voilà. Je vais présenter juste notre orateur devant le petit reste. C'est la Saint-Nicolas. Voilà. J'allais dire que les enfants ont Saint-Nicolas et nous, nous avons Saint-Noël. Ce n'est pas le Père Noël, non. Saint-Noël Haussmann, donc, est sœur du 5 heures de Marie et qui est une fidèle de l'Institut d'études théologiques depuis toujours, quasiment. Et qui est aussi responsable, éditrice d'ouvrages dans différentes collections, et puis de la revue Vie consacrée. Elle a été expert aussi dans un synode, le synode sur l'Europe.
Non, à Rome. Ça, j'étais auditrice.
Auditrice.
Tandis que l'expert, c'était au synode sur la vie consacrée.
Voilà, ah oui, synode sur la vie consacrée et auditrice au synode romain, donc... sur l'Europe. Elle écrit souvent dans des différentes revues et vous avez eu la possibilité de prendre un exemplaire de la Nouvelle Revue Théologique avec un de ses articles relatifs à la crise de la pédophilie dans l'Église et dans la société, mais à propos des prêtres pédophiles surtout. Donc vous voyez qu'il y a le courage ne manque pas en théologie. Chez certains, chez certaines, parler de croire l'Église, c'est déjà un acte de courage. Et merci beaucoup, Sœur Noël, de nous aider à pouvoir dire notre credo.
C'est bon.
Merci, Père Alban. Tout ça est en route, là, dans les machines, oui. D'accord. Donc, vous voyez que j'ai pris comme titre de cette séance... Non pas je crois en l'Église, mais je crois l'Église. C'est l'article du credo que vous connaissez bien, celui du symbole des apôtres, qui est d'ailleurs un développement de la confession de foi en l'Esprit Saint, et qui, dans le symbole des apôtres, s'énonce comme suit « Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, dit-on, à la communion des saints, etc. » Tandis que le credo de Nicée-Constantinople, l'autre credo, proclame « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, je crois en l'Esprit Saint, je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. » Donc « je crois à », « je crois en ». Est-ce que ces formules sont appropriées? Est-ce qu'on croit en l'Église de la même manière que nous croyons en Dieu, non? Est-ce que plutôt nous ne croyons pas l'Église, croire l'Église, celle qui nous est alors décrite comme une sainte catholique et apostolique? Nous allons essayer de répondre à cette question. La formule que j'ai choisie vient du catéchisme du Concile de Trente. Donc quand même, c'est important le Concile de Trente. C'est une formule de la profession de foi du Concile de Trente, qui est construit, ce catéchisme, précisément sur le symbole des apôtres, comme le nouveau catéchisme, qui a été mené à terme par Saint Charles Borromée et qui a été promulgué déjà en 1566. Ce n'était pas hier. Et ce credo donc dit « Je crois la Sainte Église catholique ».« Je crois la Sainte Église catholique ». Quelle est l'explication de cet article? La voici, dans le même catéchisme, qui a été traduit en français il y a déjà très longtemps. Je lis l'explication que donne le catéchisme du Concile de Trente. « La voici. Nous sommes donc rigoureusement tenus de croire que l'Église est une, sainte et catholique. Si, en croyant aux trois personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous mettons en elle notre foi et notre confiance, ici, au contraire, nous parlons autrement et nous faisons profession de croire une Église sainte et non pas en une Église sainte. Et par cette manière différente de nous exprimer, nous conservons la distinction nécessaire entre le Créateur et les choses qu'il a créées, et nous attribuons à sa divine bonté tous les dons que l'Église possède. Voilà l'explication du catéchisme du Concile de Trente. Alors, ce n'est pas la seule fois où, dans la tradition la plus autorisée, on a employé cette formule « je crois l'Église ». Je prends l'exemple de cette... texte qui a été promulgué en 1967 par la Congrégation pour la doctrine de la foi, celle qui s'occupe de notre foi, n'est-ce pas ? En 1967, elle avait fait adresser aux évêques du monde entier le texte d'une nouvelle formule de profession de foi qui remplaçait précisément celle du Concile de Trente, 1967. Et on pouvait lire dans la formule: je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, etc., et en Jésus-Christ notre Seigneur, etc. Je crois également au Saint-Esprit, qui est Seigneur et qui donne la vie, etc. Je crois l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je note que cette énonciation de la doctrine de la foi a été publiée en 1967, précisément au moment où le pape Paul VI décrétait une année de la foi, déjà une année de la foi, qui allait du 29 juin 67 au 29 juin 68, en l'honneur du 19e centenaire du martyr des saints apôtres Pierre et Paul, colonne de l'Église de Rome. Voilà. Il y a déjà eu une année de la foi, et pour cette année de la foi, on avait énoncé une nouvelle manière d'énoncer le credo qui remplaçait celle du Concile de Trente. Voilà. Alors ça m'intéresserait aujourd'hui de discuter un peu avec vous de ce troisième article du credo sur l'Esprit-Saint qui comporte notamment cette mention de l'Église à côté aussi d'autres mentions, celles qui suivent dans la confession de foi. Alors je vous rappelle aussi que quand on dit Église, on dit Esprit-Saint, hein, par le fait même, je vous le rappelle. C'est ainsi déjà que s'exprimait saint Irénée, Irénée de Lyon. Irénée disait ceci: c'est dans l'Église que Dieu a placé les apôtres, les prophètes et les docteurs, et tout le reste de l'opération du Saint-Esprit. De cet esprit s'excluent donc tous ceux qui, refusant d'accourir à l'Église, se privent eux-mêmes de la vie par leurs doctrines fausses et leurs actions dépravées. Puis ceci, tout le monde devrait apprendre par cœur cette magnifique citation: car là où est l'Église, là aussi est l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. Là où est l'Église, là est l'Esprit, là où est l'Esprit, là est l'Église et toute grâce. Et l'Esprit, finissait Irénée, et l'Esprit, c'est la vérité. C'est contre les hérésies, au livre 3, chapitre 24. Donc nous allons réfléchir en plusieurs moments, ils sont écrits au tableau, à propos d'abord de la première interrogation du rituel du baptême. Puis alors, moi je vais plonger dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, le nouveau catéchisme, enfin ça c'est déjà une vieille version, celui de 92. Qu'est-ce qu'il dit de cette Église et qu'est-ce qu'il va dire aussi de ce qu'on appelle les notes de l'Église, c'est-à-dire le fait qu'elle est une sainte, catholique et apostolique. C'est de ça qu'on va parler ce soir, avant de finir par une autre formule liturgique. Donc je prépare de la première interrogation du rituel du baptême. Et pourquoi pas, moi je repars du rituel préconciliaire du baptême, celui sous lequel j'ai été baptisé, et un certain nombre d'entre vous, je pense, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin au moins vous avez assisté à d'autres baptêmes que le vôtre. Comment ça se passait ? C'était quand même très très symbolique. L'interrogatoire du catéchumène, c'est-à-dire du petit bébé, hein, qui était, pour lequel répondaient ses parrains et marraines, se faisait à la porte de l'église. On n'entre pas à la porte, là, dehors, ou sur le seuil. L'interrogatoire était le suivant, c'est le prêtre qui disait le prénom, hein, par exemple, Noël, moi. Que demandez-vous à l'église de Dieu ? Que demandez-vous à l'église de Dieu ? Et la réponse, c'était... Non ? La foi. La foi. Exactement, la foi. Alors le prêtre demandait encore, que vous procure la foi ? Et on répondait, la vie éternelle, voilà. Ça, c'est l'ancien formulaire. Alors suivait, je vous rappelle aussi, une exhortation à observer le seul commandement, le double commandement de l'amour. Premier exorcisme, première imposition du signe de la croix, première signation, première imposition des mains, bénédiction de l'enfant et imposition du sel, c'était ainsi à l'époque. Deuxième imposition du signe de la croix, deuxième imposition des mains, après laquelle alors le prêtre mettait l'extrémité de son étole sur la tête de l'enfant, en signe de prise de possession par l'Église de cet enfant. C'est alors seulement que l'enfant pouvait pénétrer dans l'Église et que se poursuivait le rituel. Alors ça, c'était la tradition du credo. On dialoguait le credo, puis le pater, et puis il y avait un troisième et dernier exorcisme, le rite de l'Ephata, ouvre-toi, hein, renonciation à Satan, onction d'huile sainte, et enfin, on avançait vers la fontaine baptismale pour le baptême proprement dit, lequel baptême était encore suivi de l'onction du Saint-Crème, une petite confirmation si vous voulez, de l'imposition du vêtement blanc et de l'allumage du cierge pascal. C'était ainsi. Tandis qu'aujourd'hui, dans les nouveaux rituels, d'après Vatican II, qui sont plusieurs, pour les adultes, pour les enfants à l'âge de scolarité, pour les petits-enfants, etc., en tout cas dans le rituel du baptême des petits-enfants, version française, hein, parce qu'il faut encore voir ce que dit le latin, mais ici c'est la version française, comment est-ce que ça se passe ? Il y a en effet un interrogatoire. Supposons, Noël, que demandez-vous à l'Église ? Qu'est-ce qu'on répond maintenant ? Le baptême. Ah, c'est pas la même chose, hein ? On demande le baptême, on demande pas la foi. Et pour les enfants en âge de scolarité, on dit, toi, que veux-tu ? L'enfant répond, par exemple, je veux devenir chrétien, ou quelque chose de semblable. Je veux devenir chrétien. Très bien, mais il demande pas la foi. Ou encore, pour le baptême des adultes, dans la première étape, parce que c'est un baptême en étape, n'est-ce pas, le baptême classique des adultes, vous et vous, parce qu'ils sont plusieurs souvent, vous vous présentez aujourd'hui à l'Église de Dieu, que demandez-vous ? Réponse, selon le catéchumène. Chacun répond ce qu'il veut, quoi, enfin ce qu'il peut. Et je trouve parfois que la réforme liturgique a beaucoup gagné, n'est-ce pas ? En se fondant dans la parole de Dieu, parce qu'il y a maintenant la parole de Dieu, une petite homélie, tout ça, magnifique. Je demande parfois si la réforme n'a pas, sur certains points, perdu un peu de substance. Parce qu'aujourd'hui, le poids de la réponse du futur baptisé repose sur son engagement personnel. Que veux-tu ? Alors, je m'engageais, quoi. Alors qu'autrefois, c'était bien plus clair qu'il entrait dans la foi de l'Église. Petite observation préliminaire qu'on peut appuyer par une remarque d'un éminent théologien qui s'appelle Ratzinger, je ne sais pas si vous connaissez. Maintenant, il est pape, je crois, oui, c'est ça, oui. Mais enfin, quand il était encore cardinal, citant d'ailleurs le père de Lubac, bien connu dans cette maison, notamment de certains étudiants, n'est-ce pas, qui sont en train de le lire, eh bien, le cardinal Ratzinger, citant le père de Lubac, disait que la forme dialoguée du credo maintenez ensemble deux éléments, au fond. La foi comme un don. Parce que le prêtre disait, croyez-vous en Dieu le Père, etc. Hein, voilà. La foi comme un don, c'est-à-dire l'Église comme sujet préalablement donné, sans lequel sujet je n'aurais même pas la possibilité de croire. Puis quand je répondais, ou quand on répondait pour moi, évidemment, il y avait l'autre aspect, c'est l'adhésion de celui qui entre dans ce « je » croyant de l'Église, dans ce « je ». Donc Ratzinger disait « le « je » du credo, « je crois », inclut le passage du « je » privé au « je » ecclésial. Ou encore, il disait « la mémoire de l'Église, l'Église comme mémoire, c'est le lieu de toute foi ». La mémoire de l'Église, c'est le lieu de la foi. Donc vous pourrez lire, si vous voulez, les conséquences qu'il en tirait, par exemple dans ce petit livre que je ramène de Rome, parce que je reviens de Rome. Hein. Et donc, ils vont certainement ici aussi, mais il est de 2012, c'est assez nouveau. Vous pouvez lire les conséquences qu'il en tirait à l'époque, c'est un texte ancien d'ailleurs, de 1975, qui vient d'être réimprimé. Qu'est-ce qu'il tirait comme conséquence de ce qu'il appelle la mémoire festive de la mort et de la résurrection du Seigneur, qu'on célèbre dans les sacrements? Eh bien, il tirait notamment ceci, il disait que la théologie en chambre, hein, il connaissait bien, c'était la sienne, c'est la mienne par exemple, hein, théologie en chambre, la théologie en chambre ne suffit pas à renouveler la foi, puisque c'est dans le contexte du catéchuménat que la doctrine chrétienne du baptême s'est développée. Et donc c'est à partir du contexte pastoral, du catéchuménat, que la doctrine pourrait se renouveler, et pas par les théologiens en chambre. On voit bien le résultat, dans certaines limites du rituel. Enfin, et moi je dois vous parler de l'Église, et pas des théologiens. L'Église, sujet de notre foi, c'est elle qui croit. Et c'est l'Église en laquelle nous croyons, c'est-à-dire, comprenez bien, cela signifie en même temps que elle est la matrice de notre foi, elle est notre mère dans la foi, l'Église, et aussi que nous la croyons. Je crois l'Église, c'est-à-dire je crois ce qu'elle me dit de Dieu, du Christ, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est de ça que je vais essayer de vous parler maintenant. Qui est l'Église que nous pouvons aimer? C'est une très belle formule, j'aime bien cette question. C'est une formule du père Jean-Marie Faux, il y a très longtemps, dans un article de vie consacrée, évidemment, à propos de l'Église. Et il posait cette question, qui est donc l'Église que nous pouvons aimer? Alors, le catéchisme de l'Église catholique, dont vous avez maintenant sous les yeux, a une partie du plan, de la première partie. Donc, le plan de la première partie. Donc, le catéchisme de l'Église catholique consacre toute sa première partie, ses fondements, à cette profession de foi du credo. Il y a trois autres parties, comme vous savez sans doute. Il y a la partie 2, c'est la célébration du mystère, tout ce qui est sacrement, dans la partie 2 du credo. La partie 3, c'est la vie dans l'esprit, c'est-à-dire la vie morale du chrétien, tout ce qu'on fait quand on est chrétien, tout ce qu'on ne fait pas. Et puis la dernière partie, qui est sans doute la plus belle et la moins connue, mais c'est une belle partie, enfin, sur la prière chrétienne, notamment un commentaire du Notre Père. Enfin, ici, on en est dans la première partie à propos de la profession de foi. Cette première partie est divisée, comme les trois autres, en deux, une première section et une seconde. Ce sera toujours le même schéma dans le catéchisme. La première offre un panorama général de la problématique, ici sur la foi, et puis la seconde va entrer dans les détails. C'est chaque fois comme ça que ça marche. C'était voulu comme ça, par les rédacteurs. Alors, je regarde un instant avec vous cette espèce de plan, ce sommaire, en fait, de la première partie. Regardez bien comment ça fonctionne. La première section se divise en trois. Vous voyez, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. D'ailleurs, la seconde section aussi se divise en trois. On aime bien les divisions tripartites dans le catéchisme. Mais la première section, oui, celle qui se divise en trois, comme l'autre, la première section, elle a environ 30 pages. Alors que la seconde en a 180. C'est une disproportion terrible, hein ? 30 pages d'un côté, 180 de l'autre. Et cependant, l'essentiel se trouve dans les 30 premières pages. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'il y a 180 pages, il y a plus, non. Il y a des choses moins fondamentales. C'est dans la première partie, c'est dans la première section que sont les choses qui importent le plus, qui conditionnent au fond tout le reste. Alors, vous voyez comment ça marche. Dans le chapitre 1, on dit que l'homme est capable de Dieu. On part donc du désir qu'a l'homme de Dieu. Mais on montre aussi, dès le chapitre 2, que c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Donc, Dieu est allé à la rencontre de l'homme, et c'est cette révélation qui s'est transmise, la révélation de Dieu s'est transmise via la tradition apostolique, etc., et via la Sainte Écriture, en sorte que, alors, l'héritage de la foi confié à l'Église puisse être interprété. Et on en arrive au chapitre 3, où, en réponse à la révélation que Dieu fait de lui-même et qui se transmet dans l'Église, la foi vient comme une réponse. Donc, elle est une grâce de Dieu, elle est aussi en même temps une œuvre de l'homme, c'est Dieu et l'homme dans la foi. Elle est obéissance du cœur qui écoute, elle est commencement de la vie éternelle, etc. C'est tout ce chapitre 3 dont je ne vais rien dire, sauf que, pour finir, je reviendrai sur la formule « Regarde, Seigneur, la foi de ton Église ». On entre dans la deuxième section, et qui commence ainsi, je cite le paragraphe 186 du catéchisme, qui dit « Je crois » dit « J'adhère à ce que nous croyons ». Qui dit « Je crois » dit « J'adhère à ce que nous croyons ». C'est ainsi que ça commence, cette section sur la profession de la foi chrétienne dans les symboles de la foi. Alors vous voyez les trois mouvements, les trois chapitres, c'est la confession trinitaire. D'abord, je crois en Dieu le Père, on vous explique qui est ce Père créateur. C'est là que vous trouverez toute la doctrine sur la Trinité, sur la création, sur les anges, le paradis, tout ça, etc. 40 pages donc pour Dieu le Père Tout-Puissant. Après, 60 pages pour Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, toujours en suivant le symbole des apôtres. Voilà. Parce que le cœur de la catéchèse, c'est évidemment le Christ. Alors, qui s'est fait homme, etc. C'est toute la christologie, toute la théologie mariale aussi, parce que quand on parle du Christ, aussitôt on parle de Marie, tous les sacrements, etc. Et puis, l'article 4, donc, de cette partie sur le Christ, parlera de son attitude par rapport à la foi d'Israël, etc. Bon, je ne vais pas épiloguer sur le Christ, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est le chapitre 3. Je crois en l'Esprit Saint, comme je l'ai dit depuis le début. Cette foi en l'Esprit Saint contient toutes sortes de choses qui vont avec le Saint-Esprit, si je puis m'exprimer comme ça. L'Église, bien entendu, le pardon des péchés, la résurrection de la chair, la foi en la vie éternelle, ces 80 pages nous parlent de Saint-Esprit, en fait. Au point de vue de l'histoire sainte du côté du Saint-Esprit, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, vous voyez bien qu'il y a un article 8, l'Esprit-Saint lui-même, et puis un article 9, c'est là qu'on se situe, là. C'est de ça que je vais longuement vous parler. C'est le traité sur l'Église, le plus long de tout le catéchisme. Tous les autres traités sont très importants, sur la Trinité, etc., mais c'est ici qu'est le plus long, et c'est sur l'Église. L'Église est entendue depuis le dessein de Dieu, la bonté prévenante de Dieu, son plan, n'est-ce pas, son plan d'amour. L'Église est entendue tout de suite comme mystère, comme Vatican II, mystère et sacrement universel du salut, paragraphe 1. Les désignations de l'Église, ce ne sont pas des définitions, mais ce sont de grandes désignations, des grandes descriptions, des grandes images de l'Église, ce sont celles du Concile qui sont mises en avant ici. Les trois désignations de l'Église qu'on connaît bien, c'est l'Église peuple de Dieu, l'Église corps et épouse du Christ, l'Église temple du Saint-Esprit. Peuple de Dieu dans l'histoire, corps et épouse du Christ, temple de l'Esprit-Saint qui d'ailleurs donne dans l'Église ses charismes. Et puis il y a ce paragraphe 3 très long, sur lequel je vais revenir beaucoup, c'est l'Église professée comme une sainte catholique et apostolique. Mais c'est aussi exactement là, qu'on va traiter de l'écuménisme, de la théologie chrétienne des autres religions, de l'appartenance différenciée à l'unité de l'Église, de la mission de l'Église. Tout ça est là. C'est pas un fourre-tout, hein. Non, c'est pas un fourre-tout. C'est bien que ce soit là. Mais enfin, on s'attendrait peut-être pas à ce que quand on parle de l'Église, on vous parle de tout ça. Puis après, on vous dira que les fidèles du Christ peuvent relever soit de la hiérarchie, soit du laïcat, soit de la vie consacrée, c'est le paragraphe 4. Et puis il y a la communion des saints, qui explique le précédent. Et puis il y a Marie, mère de l'Église. C'est comme un Vatican II, si vous voulez. On finit le traité sur l'Église en parlant de Marie, qui est le type, le modèle, l'exemple de l'Église réussie. Donc, comme il se doit, alors cette première partie du catéchisme, qui va aller beaucoup plus loin en parlant du pardon des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle, se termine par Amen. Amen. Hein ? Une profession de foi, quand même, de dire Amen, je suis d'accord. Ça me va, ça tient bien, etc. Amen définitif de l'amour du Père pour nous, n'est-ce pas ? Autant que notre propre acceptation de cette volonté aimante de Dieu. Alors, maintenant, je veux vous expliquer le plus simplement possible, avec le catéchisme, ce qu'on veut dire quand on dit que l'Église est une, puis qu'elle est sainte, puis qu'elle est catholique, et puis qu'elle est apostolique. Qu'est-ce qu'on dit au juste ? C'est peut-être pas tout à fait ce qu'on pense, allez voir, et vous irez voir dans le catéchisme, si vous voulez. Hein ? Il n'y a jamais que quelques dizaines de pages, hein, à regarder d'assez près. Alors, je m'attarde d'abord sur le fait que l'Église est une. Eh bien, pour expliquer ce que ça veut dire que l'Église est une, le catéchisme cite à peu près tout le temps Vatican II. Vatican II qui est cité. Bien sûr, l'Écriture sainte aussi. Et l'un ou l'autre père de l'Église. Vous savez que les pères de l'Église sont considérés comme nous apportant la première explication de l'Écriture sur laquelle nous fondons notre foi. Donc c'est bien de citer les pères, surtout les plus anciens. Quand on dit que l'Église est une, on dit que l'Église est une par sa source, Dieu. C'est donc l'unité de Dieu dans la Trinité des personnes qui fait l'unité de l'Église. Parce que Dieu est un, l'Église est une. L'Église est aussi une par son âme, dit le texte. Son âme, c'est l'Esprit-Saint. Il n'y a qu'une âme dans l'Église, c'est l'Esprit-Saint. Ici, on cite Clément d'Alexandrie. Et donc, de cette façon, dans l'unique peuple de Dieu, un seul peuple de Dieu, une seule Église, se rassemblent tous les peuples divers. C'est une unité qui comporte, qui contient la diversité. Entre les membres de l'Église existe aussi une diversité de dons. Mais ils sont en communion les uns avec les autres. Et dans la communion de l'Église existent des églises particulières. Dans l'Église, il y a des églises. L'unité de l'Église dit qu'elle peut contenir en elle des églises particulières. Toute cette diversité ne s'oppose pas à l'unité, même si le péché peut évidemment menacer ce don de l'unité. Qu'est-ce qui fait le lien entre toute cette diversité ? C'est la charité, bien sûr. La charité fait le lien, mais aussi cette unité est assurée par des liens visibles de communion. Il y a des liens visibles où nous disons, où nous faisons notre communion. Par exemple, la profession d'une même foi, le credo, c'est quand même le symbole de l'unité de l'Église. La célébration du même culte, des mêmes sacrements. La succession apostolique par le sacrement de l'ordre, ça fait l'unité de l'Église. Bref, pour finir ce point, l'unique Église du Christ, c'est celle qu'il a confiée à Pierre et aux autres apôtres. Et cette Église est une société constituée et organisée dans le monde, visible donc, et spirituelle tout ensemble. Cette Église dont nous parlons, elle est réalisée dans l'Église catholique. Elle subsiste dans l'Église catholique. Subsistit in, dit le texte à la suite de Lumen Gentium numéro 8. Alors le catéchisme, après avoir dit ça, ce que ça veut dire que l'Église est une, c'est ça, eh bien le catéchisme poursuit son chemin, je vais l'abandonner ici pour ce qui est de l'unité, poursuit son chemin en parlant de l'écuménisme, Et puis, d'un certain nombre d'autres choses qui montrent tout de même aussi comment l'Église peut être une. Je le laisse là pour l'instant et j'essaie d'expliquer maintenant comment l'Église est sainte. Nous sommes toujours donc dans ce paragraphe 3 de l'article 9 du chapitre 3 de la deuxième section de la première partie, hein, vous voyez. Toujours à propos donc de la confession de foi en l'Esprit Saint. Le catéchisme affirme aussi fort que son unité, il affirme la sainteté indéfectible, donc il ne peut pas défaillir, infaillible, disons indéfectible, de l'Église. Cette sainteté lui vient, à l'Église, de la sainteté des personnes divines, c'est comme l'unité, quoi. Si l'Église est sainte, c'est parce que Dieu est saint. Si l'Église est une, c'est parce que Dieu est un. Et en particulier, cette sainteté lui vient du Christ qui s'est livré pour la sanctifier. Il s'est présenté à lui-même, etc. Donc, avant saint Paul, avant les actes même, les apôtres, c'est sur le Concile Vatican II, c'est surtout sur le Concile Vatican II que le catéchisme prend appui. Et en particulier, ce n'est pas étonnant, je crois, sur la constitution Lumen Gentium. C'est évidemment dans Lumen Gentium que l'Église a été entendue comme le peuple de Dieu, le peuple saint de Dieu, le peuple des saints, un des premiers noms des chrétiens, n'est-ce pas, qui s'appelait entre eux frères, c'est-à-dire saints. Cette Église qui a été sanctifiée par la sainteté du Christ, cette Église devient sanctifiante. Elle est dépositaire des moyens du salut, de la plénitude des moyens du salut. C'est pour ça qu'elle est sanctifiante. À elle sont confiés les moyens du salut, sacrement notamment. Cette sainteté véritable que vit l'Église est évidemment imparfaite, nous le savons trop bien, parce que c'est une sainteté, on dit dans le scoutisme, encore à acquérir, hein, plutôt déjà acquise, mais encore à acquérir. Tous sont appelés à la perfection de la sainteté du Père, dit le catéchisme. Et cette sainteté, c'est d'abord et avant tout la charité, c'est toujours la même chose. Et la charité est ici décrite, bien entendu, il fallait s'y attendre, par le manuscrit B de Sainte Thérèse de Lisieux, qui cherche un jour à savoir comment elle va réaliser son rêve d'être tout dans l'Église, et elle découvre que l'Église a un cœur, enfin saint Paul ne l'avait pas vu, mais elle l'a vu, hein, et que dans le cœur de l'Église, brûlant d'amour, elle sera l'amour. Hein. C'est ça qui est cité ici pour expliquer la sainteté de l'Église. Je signale l'importance de Thérèse de Lisieux pour le catéchisme, mais l'importance des saints dans le catéchisme. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de citations d'Écriture et beaucoup de citations des pères de l'Église, mais les saints sont cités bien des fois. C'est une galerie de portraits de saints, le catéchisme. En particulier, c'est pas pourquoi les saints français. Sans doute que les rédacteurs, n'est-ce pas, étaient surtout... Le catéchisme a été d'abord rédigé en français, hein, comme vous savez sans doute, pas en latin, mais en français. Et les rédacteurs étaient de culture française, ça c'est clair. Il y en avait dans cette maison, des rédacteurs. Donc, Thérèse de Lisieux, dans l'hymne à l'amour, découvre, vous vous en souvenez, n'est-ce pas, que toutes les vocations qu'elle désire trouver, elle va les trouver dans la sienne, en disant « je serai l'amour hein, ». Dans le cœur de l'Église, ma mère, « je serai l'amour voilà. ». Et donc, en s'abritant dans le cœur de l'Église, sa mère, elle a trouvé la sainteté. C'est ça que nous dit le catéchisme de la sainteté. Donc l'Église est à la fois sainte, sainte, elle l'est, et en même temps toujours appelée à se purifier. Elle rassemble des pécheurs en voie de sanctification. Pas en même temps, comme disait Luther, sainte et pécheresse, non. Elle rassemble des pécheurs en voie de sanctification. Et on cite ici la profession de foi de Paul VI, qui est une autre, un très beau texte aussi, on ne va pas tout dire, mais Paul VI lui-même a reformulé après Vatican II, qui ne l'avait pas fait, un nouveau credo, le credo de Paul VI, en 1968. avec des formules intéressantes, notamment pour ceux qui préparent des examens d'ensemble en théologie. Alors, quand l'Église dit que quelqu'un est saint, quand elle canonise quelqu'un, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reconnaît solennellement d'un fidèle qu'il est saint. Elle reconnaît solennellement la puissance du Saint-Esprit qui a fait de cet homme, de cette femme, pauvre gens de notre race, n'est-ce pas, des modèles et aussi des intercesseurs, comme dit Lumen Gentium. La perfection de la charité, au moins on en est sûr, est atteinte en la Vierge Marie, la perfection de la sainteté. Elle est sans tache ni ride, enfin elle est l'Église achevée. C'est en la Vierge Marie que l'Église est déjà là toute sainte, puisque c'est la Vierge Marie qui est toute sainte, et l'Église aussi. Ça, c'est aussi de Lumen Gentium, chapitre 8. Donc, je le répète, c'est principalement sur la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, qu'on trouve la source de cette désignation, de cette explication de la deuxième note de l'Église sur sa sainteté. Alors, je lis ce que le catéchisme dit en bref, parce qu'après chaque partie de son déroulement, le catéchisme a toujours ce qu'il appelle des « en bref ». Les « en bref » ne sont pas les choses qu'il faut apprendre par cœur, même si ce serait intéressant quand même d'en savoir un certain nombre par cœur, mais ce sont des condensés des textes longuement exposés qui précèdent. Alors, à propos de la sainteté, au paragraphe 867, le catéchisme dit « l'Église est sainte », deux points, qu'est-ce que ça veut dire donc ? Le Dieu très saint est son auteur. Point virgule. Le Christ, son époux, s'est livré pour elle, pour la sanctifier. Point virgule. L'esprit de sainteté la vivifie. Voilà. Saint de la sainteté de Dieu, qui l'a créé, du Christ, son époux, qui l'a sauvé, et de l'Esprit Saint, qui la vivifie. Encore qu'elle comprenne des pécheurs, elle est là, sans péché, faite de pécheurs. Dans les saints brille sa sainteté. En Marie, elle est déjà la toute sainte. Voilà. Quand on vous demandera ce que c'est la sainteté de l'Église, vous direz ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est catholique ? Eh bien, catholique, pour le catéchisme, ça veut dire universel. Le catéchisme comprend ce terme catholicos, kata, en grec, n'est-ce pas, et holos, selon l'ensemble, selon le tout, qu'on trouve déjà chez Ignace d'Antioche. Le catéchisme comprend ce terme catholique comme universel. Et dans les deux sens du mot universel, c'est en même temps intégral, total, donc si vous voulez, la plénitude du Christ, tous les moyens du salut, pour toujours, pour tous, et depuis toujours. Ça c'est catholique, tout, pour tout le monde, toujours. Et puis, universel, c'est aussi remplissant l'univers, envoyé partout, pour tous, récapitulant l'humanité entière. Donc, toute la profondeur et toute la largeur, hein, l'extension et la compréhension, si vous voulez. L'Église du Christ, au singulier, est présente, dit le catéchisme, dans toutes les églises, car il y a des églises. De ce point de vue, les églises particulières, c'est-à-dire les diocèses, sont formées à l'image de l'Église universelle, universalis. C'est en elle, dans ces églises particulières, et à partir d'elle, ces églises particulières, qu'existent l'Église catholique, catholica, pas universaliste, catholica, une et unique. Citation, très célèbre passage de Lumen Gentium 23. Donc les églises particulières sont formées à l'image de l'Église universelle. C'est en elle et à partir d'elle qu'existe l'Église catholique. Donc les églises particulières, dit encore le catéchisme, sont pleinement catholiques, pour autant qu'elle soit en communion avec l'une d'elles, l'Église de Rome. Oui, l'Église de Rome. L'Église de Rome. C'est l'Église qui préside à la charité, disait déjà Ignace d'Antioche, et auprès saint Irénée, et saint Maxime le Confesseur, etc. Alors, qui est dans l'Église catholique? Tous les hommes sont appelés à l'Église catholique. Oui, parce qu'elle est catholique, universelle. Mais certains lui appartiennent déjà, quoique sous des formes diverses. Pensez tout de suite aux catholiques. Hein. D'autres lui sont ordonnés, comme dit le texte, avec le concile d'ailleurs. Alors, pour les catholiques, sont pleinement incorporés à la société qu'est l'Église, ceux qui correspondent à la description de la foi et de la communion pétrinienne. Donc, qu'est-ce qui fait un catholique? La foi, et le sacrement de la foi, et la communion avec Pierre. C'est ça qui fait le catholique. Évidemment, ils ne sont pas pour autant assurés du salut s'ils n'y mettent pas leur cœur, explique le catéchisme. Pas parce qu'on est catholique qu'on va au ciel. Enfin, on est catholique à ces deux conditions, la foi et la communion pétrinienne. Les autres baptisés, il y a des baptisés qui, quand même, qui ne tiennent pas, par exemple, la communion pétrinienne. Les autres baptisés, avec ceux-là, l'Église se sait unir pour de multiples raisons. Se sait unir. Se sait unir. On ne dit pas qu'ils sont dedans, on dit l'Église se sait unie à eux. Et pour de multiples raisons, qui sont notamment la foi au Christ, bien entendu, et le baptême, qui permet une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église catholique. Parce que les autres sacrements, chez les protestants, c'est pas tout à fait ça, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Pour le baptême, il n'y a pas de problème, ni avec les protestants, ni avec les orthodoxes, mais pour les autres sacrements. Et puis, le texte précise aussi, le catéchisme, que c'est plus vrai encore pour les églises orthodoxes. On est encore beaucoup plus proche avec les orthodoxes qu'avec les anglicans ou les protestants. Le texte dit « Il manque bien peu à cette communion orthodoxe pour autoriser une célébration commune de l'Eucharistie du Seigneur. » Oui, il manque bien peu. C'est la même foi. C'est la même foi eucharistique. Alors, ça, ça vaut pour les chrétiens, ce que je viens de dire. Hein. Il y a d'abord au centre, si vous voulez, les catholiques, un peu à l'extérieur, enfin un peu plus loin que le centre, mais dedans, enfin aux proches, il y a les protestants, les anglicans et certainement les orthodoxes. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, donc on est hors du baptême maintenant, hein, sont eux aussi ordonnés au peuple de Dieu, ordonnés. C'est-à-dire ils ont leur orient dans ce peuple de Dieu. Et tout d'abord, le peuple à qui Dieu a parlé en premier, le peuple de Dieu de l'ancienne alliance. Et le nouveau peuple de Dieu tende vers des buts analogues, messianiques. On est donc en train de vous parler des Juifs ici. Hein. En premier lieu, en dehors du premier cercle, eh bien, en premier lieu, il y a les Juifs. Ensuite, le dessein de salut de Dieu enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, un Dieu créateur, en tout premier lieu, les musulmans. Ah oui, comme ça. C'est déjà le texte du Concile. Hein. Donc, après ça, c'est pas fini, parce que il y a aussi le lien de l'Église avec les religions non chrétiennes, qui est d'abord celui de l'origine et de la fin commune du genre humain. S'il y a une origine commune au genre humain, s'il y a une fin commune au genre humain, alors, avec les religions non chrétiennes, nous sommes tout de même associés. Et puis, dans les autres religions qui ne sont pas du tout chrétiennes, ou qui ne sont même pas croyants en un Dieu créateur, comme chez les musulmans, eh bien, l'Église considère tout ce qui peut se trouver de bon et de vrai comme préparation évangélique. Préparation évangélique. Et comme un don de Dieu qui illumine tout homme pour qu'il ait la vie. Dans les autres religions, l'Église considère tout ce que Dieu a déjà donné et préparé. Le Père a voulu convoquer toute l'humanité dans l'Église de son Fils, c'est l'Église de son Fils qui est le lieu où l'humanité doit retrouver son unité et son salut du péché et de la mort. Et alors, encore à ce moment-là où on est en train de vous parler de l'unité de l'Église, une sainte catholique, de la catholicité de l'Église, c'est là qu'on vous explique le vieil adage « hors de l'Église, pas de salut ». Vous vous souvenez ?« Hors de l'Église, pas de salut ». Eh bien, le Concile a remodelé cet adage, et le catéchisme aussi. « Il faut l'entendre, dit le catéchisme, positivement. Hors de l'Église, pas de salut », ça veut dire « dans l'Église, le salut ». Ah oui, c'est comme ça qu'il faut entendre. Il ne faut pas dire « si vous êtes en dehors, vous n'avez pas de salut », il faut dire « au moins nous, dedans, on est sûr du salut, si on veut bien ». Comme ça, voilà. Donc, il faut voir. Hein. Hors du Christ, pas de salut. Hors de l'Église, pas de salut, si vous voulez, mais ça veut dire hors du Christ, pas de salut. Et dans l'Église, certainement le salut. Donc, vous comprenez bien, le catéchisme explique. En conséquence, pour être séparé du Christ, il faut le vouloir ou le savoir. Ah oui, c'est pas malgré soi. Et d'autre part, pour l'Église, c'est un grand devoir, celui d'évangéliser. Parce que si sans le Christ, on n'entre pas dans le salut, alors il faut que la lumière du Christ soit nécessairement étendue à tous ceux qui l'attendent. Voilà. C'est pour l'Église qui est catholique, ça. Maintenant, apostolique. Je commence, pour faire simple, par le résumé, l'embref. C'est au paragraphe 869. Que veut dire que l'Église est apostolique ? Ça signifie qu'elle est bâtie sur des assises durables, les 12 apôtres de l'agneau. C'est ça que ça veut dire. Elle est construite sur les 12, à jamais et pour toujours. Ils n'ont jamais été remplacés. Ils demeurent. Ils sont les pierres sur lesquelles est construite la cité sainte. Ils sont là, ils ne bougeront pas. Les évêques ne les font pas bouger. Non. Donc, elle est, cette église, elle est indestructible. C'est ça qu'on dit quand on dit qu'elle est apostolique, c'est-à-dire qu'elle ne défaillira pas. Matthieu 16, hein, les forces de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Elle est infailliblement tenue dans la vérité. Le Christ la gouverne par Pierre et les autres apôtres. Pierre et les autres apôtres sont présents dans leur successeur, je vais expliquer. Mais c'est le résumé. Et leur successeur, c'est le pape et le collège des évêques. Voilà. Donc, je reprends un petit peu, puis je vais expliquer dans le détail. Dire que l'Église est apostolique, c'est la reconnaître à jamais fondée sur les 12. Ça. C'est pas dire, moi je suis apostolique, donc l'Église est apostolique. C'est pas ça. Hein? Elle est fondée sur les 12 apôtres. Je proclame aussi son indéfectibilité, disons sa résilience, hein, en termes modernes, on dirait ça. On proclame aussi qu'elle est tenue dans la vérité sans jamais en défaillir. On n'a pas dit le pape est infaillible, on dit l'Église est infaillible dans sa foi. L'Église ne peut pas errer dans la foi. C'est là-dessus qu'est construite l'infaillibilité pontificale, sur l'indéfectibilité de l'Église. Et quatrièmement, on vous dit que la cause de tout ça, c'est que le Christ la gouverne, maintenant, présentement, par Pierre et les autres apôtres, lesquels sont présents dans leur successeur. On dit donc à la fois que le pape et les évêques gouvernent l'Église et que Pierre demeure toujours le premier. Donc pour comprendre chacun de ces points, revenons un peu en arrière. Dire que l'Église est fondée sur les apôtres, ça signifie qu'elle est bâtie sur le fondement de ceux que le Christ a choisis. C'est le Christ qui les a appelés et envoyés. Ça signifie aussi qu'elle garde, elle transmet, grâce au Saint-Esprit, tout ce qu'elle a reçu des apôtres. Fondée sur les apôtres, ça veut dire sur ceux que le Christ a choisis, mais dont elle garde et transmet l'héritage. Et puis aussi qu'elle continue à être enseignée, sanctifiée, dirigée par ces mêmes apôtres jusqu'au retour du Christ. Comment ? Grâce à leurs successeurs, des apôtres, c'est-à-dire au collège des évêques, assistés par les prêtres, en union avec le successeur de Pierre. Donc ceci demande à être explicité, et c'est ce que le fait longuement le catéchisme, je vais le faire avec lui. Trois points, donc toujours, la mission des apôtres, les évêques successeurs des apôtres, et au fond l'apostolat, qu'est-ce que c'est ? Je reviens sur la mission des apôtres. Apôtre, ça veut dire envoyé. Mais le premier des envoyés, c'est le Christ, envoyé du Père. Donc, la mission des apôtres remonte à l'envoyé du Père qui a fait les 12, qui a fait des 12 ses envoyés apostoloi. Et c'est en eux que se poursuit la mission de l'envoyé. Leur mission est la continuation de sa mission, dit le texte. Jésus unit les apôtres à sa mission, ils ne peuvent rien faire sans celui duquel ils ont reçu mandat et pouvoir. Ils sont qualifiés par Dieu en tant que ministres d'une alliance nouvelle. Ils sont serviteurs et dispensateurs des mystères de Dieu. Tout ça, c'est une grande citation scripturaire habituelle. Leur charge de ces apôtres comporte donc, je parle des 12, un aspect intransmissible. Ils ont été les témoins de la résurrection et personne d'autre qu'eux ne l'est après eux. C'est eux les témoins de la résurrection. Ça ne se transmet pas. Quand ils sont morts, la charge, ils continuent à la porter invisiblement, mais c'est eux, c'est pas d'autres. Et d'autre part, il y a un autre aspect de leur charge qui est permanente, si on veut, puisque le Christ demeure avec eux jusqu'à la fin, et c'est ça qu'ils ont à transmettre à leurs successeurs. Comment ? Pourquoi ? Deuxième point, les évêques sont successeurs des apôtres. Comment ? Pas apôtres à la place des apôtres, pas calife à la place du calife. Non, successeurs du calife. Les apôtres ont donné mandat à leurs coopérateurs immédiats de poursuivre après leur mort la mission qui leur avait été confiée. On voit ça dans les écrits du Nouveau Testament. Les apôtres ont donc institué des hommes de ce genre qui pourraient donc... qui étaient leurs coopérateurs et qui pourraient poursuivre leur mission après leur mort, ce sont des hommes éprouvés qui... ils ont institué des hommes, leurs collaborateurs, en disant « Vous poursuivrez notre charge après notre mort » et en même temps, ils ont disposé que, après la mort de ceux qu'ils instituaient en institueraient d'autres. Ainsi, la succession. Ils ont disposé qu'après la mort des premiers, d'autres hommes éprouvés recueilleraient leur ministère. Alors, la charge confiée à Pierre, premier des apôtres, est une charge, elle aussi, permanente, que Pierre et les successeurs de Pierre doivent transmettre aux successeurs de Pierre. Comme la charge aux autres apôtres est permanente et doit être transmise aux évêques. Donc, si vous voulez, les évêques succèdent aux apôtres, ne sont pas des apôtres, ce sont des successeurs d'apôtres, pas plus, pas moins. Pas apôtres à la place des apôtres, successeurs d'apôtres. L'apostolat. Toute l'Église est apostolique, oui, pour autant qu'elle demeure, à travers les successeurs des apôtres, Pierre et les autres, en communion de foi et de vie avec son origine. C'est comme ça qu'elle est apostolique. Doit retourner à son origine toujours. Toute l'Église est apostolique en tant qu'envoyée dans le monde entier. Chacun alors, à sa manière, prend part à cet envoi. La vocation chrétienne est, oui, par nature, une vocation à l'apostolat, c'est vrai. On appelle apostolat, pour le catéchisme, toute activité du corps mystique qui tend à étendre le règne de Dieu, du Christ, à toute la terre. Dans ces conditions, parce que la fécondité de l'apostolat dépend de l'union vitale avec le Christ et aussi de la communion qu'on entretient avec les successeurs des apôtres. Il y a différentes vocations, différents appels, des dons variés dans l'Église, toujours unis par la charité. Ils sont toujours aussi, dit le catéchisme, puisés dans l'Eucharistie, parce que c'est l'Eucharistie, l'âme de tout apostolat. C'est une interprétation par le catéchisme, du titre de l'ouvrage très connu, n'est-ce pas, sur l'âme de tout apostolat, le titre, le livre de Chauchard. Hein. Chauchard, non ? Tard, Chauchard. D'accord, merci. Donc voilà, en résumé, pour ces notes, tous dans l'Église sont appelés à être saints, tous sont rassemblés dans un unique peuple de Dieu, donc l'Église est sainte, l'Église est une, dans une cité qui repose sur les 12 apôtres de l'agneau, elle est apostolique. Et ça vaut pour tous, elle est donc catholique. Et c'est ça l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Donc le paragraphe que je commente de l'article 9 continue avec la hiérarchie, le laïcat, la vie consacrée, etc. Mais je l'abandonne ici pour conclure. Avec cette formule liturgique, « Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église », c'est ce qu'on dit avant la communion, n'est-ce pas ?« Regarde la foi de ton Église ». Revenons un instant à notre question du début. J'espère vous avoir bien fait comprendre que, comme disait un père ancien, nous croyons l'Église comme la mère de notre nouvelle naissance, et non pas en l'Église, comme si elle était l'auteur de notre salut. Ah non, on ne croit pas en l'Église comme on croit en Dieu. On croit l'Église parce qu'elle est la mère de notre nouvelle naissance. Ou encore, j'espère que vous avez compris ce que dit Lambref, qui conclut cette première partie, dans sa première section. Croire est un acte ecclésial. La foi de l'Église précède, engendre, porte, nourrit notre foi. Ce sont des termes qui sont les termes de mère, hein, ça. Engendre, porte et nourrit. L'Église est la mère de tous les croyants. Et puis on cite Cyprien de Carthage, « Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a l'Église pour mère. » Voilà, c'est l'embref. Alors voilà, il nous reste à croire, nous, que l'Église est une, comme Dieu est un, qu'elle est sainte de la sainteté de Dieu, qu'elle est universellement présente dans toutes les églises, l'Église du Christ, qu'elle est apostoliquement fondée dans ceux que le Christ a fait 12. Et finalement, il faut croire que la foi de l'Église nous porte, nous, parce que l'épouse du Christ est indéfectible dans la foi qui l'unit à son Seigneur. Nous sommes portés dans la foi de l'Église. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Je voudrais pour finir, citer Ignace de Loyola, hein, qui a écrit à la fin des exercices des règles célèbres pour sentir avec l'Église. Et une de ces règles dit ceci. Ça résume un peu ce que j'ai voulu dire. Nous croyons qu'entre le Christ, notre Seigneur, l'Époux, et l'Église, son épouse, il y a un même esprit qui nous gouverne et nous dirige pour le salut de nos âmes. Puisque le même esprit et Seigneur a donné les 10 commandements, c'est le même qui régit et gouverne notre Sainte Mère l'Église. Voilà. Entre le Christ et l'Église, il y a un seul esprit, c'est le même qui a donné les 10 commandements dans l'Ancien Testament et qui aujourd'hui régit et gouverne notre Sainte Mère l'Église. Et dans la règle précédente, enfin une des règles précédentes, Ignace écrivait, en tout cas dans une version antérieure, il écrivait « Notre Sainte Mère, l'Église hiérarchique ». Et il ajoutait « Quae Romana est », qui est romaine. Notre Sainte Mère, l'Église hiérarchique, qui est romaine. Je vous remercie.